Alors, salut Xavier.
Salut.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui sur Cours Central Tennis. Aujourd'hui, on va parler
De rien.
de ton
Plaisir.
parcours dans le tennis, qui est passionnant. Alors, est-ce que déjà tu pourrais parler de ta passion pour ce sport, s'il te plaît?
Bah, écoute, ma passion, elle est venue très très vite, mais ma mère, qui refusait de me voir au football, m'inscrit au tennis à l'âge de 8 ans. Et dès le départ, je suis tombé amoureux un peu de ce sport. Beaucoup très très vite, des progrès intéressants. Et puis, bah, la compétition et ce désir. Alors au départ, en jouant pas très très bien, mais toujours la volonté de jouer, de progresser, de m'amuser. Donc que ça soit avec des copains, que ça soit au mur tout seul, pendant les vacances. Que ça soit devant la maison, que ça soit dans la rue, toujours eu cette passion du tennis, dévorante même.
D'accord. Et du coup, tu as joué à quel niveau, toi, au tennis?
J'étais à négatif pendant 5 ans. Voilà, j'ai joué un peu le circuit, j'ai gagné jusqu'à 500 sur le circuit. Voilà, j'ai pas joué longtemps énormément parce que c'était pas aussi développé à l'époque que maintenant. Je suis arrivé un peu sur le tard. J'étais négatif à 22 ans, 21 ans. Mais voilà, j'ai quand même bourlingué à travers la France et un peu joué un peu partout.
Et du coup, ce qui a fait que tu as stoppé ta carrière pro, du coup, c'est quoi? Tu étais arrivé au bout de tes envies
Non, bah, déjà, je stagnais un petit peu. Pas de coach, pas d'argent. Et puis, bah, il faut se résoudre à l'évidence. Voilà, j'étais négatif. Oui, on va dire que c'est semi-pro, mais à un moment donné, bah, il fallait quand même commencer à gagner un petit peu d'argent. Et puis, les opportunités de travail. J'ai passé mon BE très tôt. J'ai eu mon BE à 20 ans. Donc voilà. Donc l'enseignement, j'étais très très vite attiré par l'enseignement. Donc voilà, j'ai stoppé. J'avais 25 ou 26 ans. Quand j'ai commencé à diriger un club dans la région parisienne.
Ok. Donc du coup, après ta carrière, comme tu le dis, tu diriges un club. Tu diriges quel club du coup?
Ouais, en fait, je démarre après avoir eu mon BE, je démarre, si tu veux, à travailler dans pas un petit club, mais un club moyen à Corbeil-Essonnes, voilà, pendant 3-4 ans, où je fais moitié-moitié, coach, enfin entraîneur de club jusqu'au jeudi et puis joueur le week-end. Et puis en 2000, que je dise pas de bêtises, en 2005, ouais, c'est ça, toi, à 25 ans, on me propose de prendre la direction du club de Courcouronnes en région parisienne. Donc un club à l'agonie. Et voilà, le challenge était intéressant et donc c'est parti comme ça.
Ok, super.
Voilà.
Donc, du coup, tu fais ça pendant quelques années et après, tu te lances dans le
Oui,
coaching.
le challenge était sympa. Je pense qu'on l'a relevé de manière significative. Et puis au bout de 5 ans, voilà, j'avais fait un petit peu le tour du projet et du travail en club. Donc, j'avais postulé pour être entraîneur départemental dans le Finistère. Bon, ça s'est transformé en CSD. Donc, voilà, j'étais CSD pendant 2 ans dans le Finistère. Et puis, bon, les aléas de la vie ont fait que voilà, je suis rentré sur la région parisienne et c'est là que j'ai démarré dans le coaching privé.
Et j'imagine que tu connaissais déjà des joueurs qui étaient à la recherche de coach. Comment tu as eu l'opportunité?
Non, pas du tout. En fait, si tu veux, ouais, alors quand j'étais en club, j'ai eu surtout une joueuse à moins 4. Voilà, j'ai eu quelques joueurs et joueuses à moins 2, moins 4. Mais rien de professionnel, on va dire, si tu veux, sur le circuit. Et puis, en rentrant, donc après mon aventure finistérienne, là, un ami m'a proposé de m'occuper d'une jeune joueuse qui était à 1-6. Donc voilà, on a commencé comme ça. Fait une très bonne saison. Et puis, si tu veux, j'ai toujours voulu diversifier un peu mes activités, tu vois. On va pas rester tout le temps sur le terrain, terrain, terrain. Et donc, j'avais racheté les parts d'un magasin de tennis en région parisienne. Et voilà, le magasin était sponsor des championnats de France handisport. Et puis, je me suis retrouvé à corder les raquettes, voilà, d'un joueur que je ne connaissais pas au départ. Et puis, le joueur est arrivé, c'était Stéphane Bay.
Allez, d'accord.
Donc, voilà, donc on a commencé à discuter. Il n'avait pas de coach, il sortait de l'aventure Lagardère. Et voilà, donc je lui ai proposé mes services et on a démarré comme ça. Et voilà, c'est le début vraiment du coaching sur le circuit qui m'a fait voyager. On a démarré l'Australie en 2013. Et voilà, ça s'est enchaîné. Il a gagné Roland-Garros en simple, en double, Wimbledon en double. Et puis à partir de là, c'est parti, quoi.
Ah ouais, c'est top ça. Et t'as fait ça combien de
Ouais.
temps du coup? Avec
Avec Stéphane, on a travaillé. Donc je m'occupais d'Éléonore Barrère, donc la sœur de Grégoire. Et puis avec Stéphane, on a démarré donc, juste avant Noël en 2012. Et donc on a vraiment démarré en Australie 2013 jusqu'à Wimbledon 2013. Où là, il a rejoint la Fédé. Moi, j'étais. On m'a la Fédé, après cette victoire à Roland-Garros, m'a proposé de rentrer en formation entraîneur de haut niveau. Donc, tout 2014, j'ai travaillé à ce diplôme. Et puis voilà. Et puis je te dis après, on a les joueurs, les joueuses, les projets viennent ou s'en vont. Ça dépend.
Ouais.
Ça dépend. Ça
En fait,
dépend
ouais,
dans
du
ce
coup,
monde de.
tout s'est enchaîné en fait. C'est top. Après, t'es...
Ouais, faut toujours un petit peu de chance, toujours arriver au bon moment. Voilà, le joueur ou la joueuse, toi, tu travailles, tu fais toujours en fait toujours la même chose. Oui, on progresse évidemment en tant que coach, mais en essayant de faire progresser les joueurs et les joueuses. Mais après, voilà, les résultats viennent pas. Tu fais toujours entre guillemets le même travail, tu vois, avec la même passion, le même sérieux, le même investissement. Et des fois, ça vient et c'est fantastique. Et donc, ça te lance ta carrière. Et puis, à l'inverse, des fois, il y a des résultats qui ne sont pas là. Mais pourtant, tu as donné la même chose, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, à travers ton expérience, c'est quoi pour toi la différence, entre guillemets, majeure entre coacher une joueuse et un joueur?
Écoute, là, je fais le va-et-vient en ce moment parce que je m'occupe de Geoffrey Blancano. Mais avant, j'étais avec Enzo Cuoco. J'ai fait 2 fois avec Enzo. Et donc, entre-temps, comme tu disais tout à l'heure, voilà, je travaille avec la Fondation Open Spirit. Et donc, je fais des va-et-vient entre les joueurs et les joueuses. Je ne sais pas vraiment s'il y a une différence réelle entre les garçons et les filles. Ça dépend du garçon, ça dépend de la fille, tu vois. Voilà, j'aime beaucoup être sur le circuit féminin. Ah, on dit toujours que oui, les filles ont plus d'émotions. Je suis pas sûr. En fait, elles l'expriment beaucoup plus. C'est sûr qu'elles ont des émotions, mais les garçons, c'est pareil. Les émotions sont peut-être différentes, mais c'est les mêmes émotions au final à gérer. Voilà. Oui, il faut faire peut-être plus attention des fois aux mots qu'on emploie avec les filles, mais après, encore une fois, ça dépend de qui. Toujours pareil, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Ouais. Et du coup, l'expérience Enzo Cuoco, elle a duré combien de temps?
J'ai commencé avec Enzo en étant entre guillemets, non, c'est pas entre guillemets, c'est assistant coach. Je travaillais avec Lionel Zimbler. Donc, on avait fait 3 mois début 2019, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Début 2019, ça s'était très bien passé, mais bon, après, il y a eu quelques frictions entre Enzo et Lionel. Donc, Enzo est parti s'entraîner avec un coach chez Moratoglou. Et puis on a redémarré fin 2019 tous les deux jusqu'à Roland 2020, donc jusqu'en octobre 2020 cette année, enfin l'année dernière, en fin d'année.
Vous avez pu quand même un petit peu voyager malgré le contexte ou...
Ouais, ça a été une année un petit peu perturbée. Début d'année, c'était compliqué. Il avait eu quelques petits soucis de santé. Il avait quand même réussi à se qualifier pour son premier 250 à Montpellier en faisant un très bon match sur Krajinovic. Après, la pandémie nous est tombée dessus à Bergamo sur ce fameux Challenger où il est en finale. Le final est annulé alors qu'il avait quand même de très bonnes chances de bien figurer en finale parce que Marchenko était complètement rincé de sa demi contre Hugo Gaston qui commençait à nous faire des amortis à tour de bras. Et voilà, après, c'est bon, bah, évidemment, il y a eu le confinement, on s'est retrouvé confiné à l'île Maurice, chez lui.
Ouais,
Et
d'accord.
puis voilà, et puis la reprise a été difficile, comme beaucoup, pour repartir sur le circuit, à huis clos, la motivation. Et voilà, et ça, on a terminé sur Roland 2020 avec un dernier tour des qualifs qui était plutôt bien. Donc voilà, écoute, une expérience sympa, des bonnes relations avec Enzo. Bon, la fin un peu plus compliquée, les résultats étant un peu plus compliqués.
Ouais,
Maintenant.
vous étiez dit on va jusqu'à Roland 2020 ou éventuellement pour continuer après?
Bah non, parce que Roland 2020, c'était normalement au mois de mai 2020, mais non, 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 on s'était rien dit, si tu veux. Oui, on avait prévu sur une saison normale de faire un point après Roland ou après Wimbledon, si tu veux. Voilà, finalement, bah, ce qui s'est passé sanitairement a fait que ça a été un peu plus compliqué. Bon, fin Roland 2020, en octobre, on a décidé et on souhaitait pas continuer l'un et l'autre, voilà, pour différentes raisons. Voilà, dommage, mais après, encore une fois, j'ai de bonnes relations avec Enzo. Bon, on se voit pas tous les jours non plus avec le circuit, mais voilà, c'est toujours très compliqué ce circuit.
C'est vrai.
La lecture des résultats est toujours très compliquée. On n'a pas toujours la même lecture entre le joueur et le coach. Tu vois, l'anecdote assez marrante, c'est que il a failli battre quand même Karatsev au mois de septembre.
Ouais.
Voilà. Il mène un set et il n'est pas loin de faire le break au deuxième. Il mène 3-0 double break au troisième sur un Karatsev qui venait de faire déjà finale sur le premier Prague. Et voilà, et bah, on sait ce qui est devenu Karatsev. Et bon, voilà, après, on n'a pas toujours la même lecture des résultats, mais
Oui,
en
c'est
tout
ça.
cas, ouais, on n'est pas sur le terrain, on ne sent pas les choses non plus
C'est ça.
comme eux les sentent, forcément, mais en tout cas, c'était une super expérience, des bons tournois quand même, le peu qu'on a pu faire ensemble. Et moi, je suis très content d'avoir travaillé avec lui. Et voilà, et je le revois demain. On part au Portugal sur un challenger. Je le reverrai demain avec plaisir. Et chacun sa route, mais en tout cas, on a passé du bon temps ensemble.
Ouais, c'est top, c'est top. Et du coup,
Mmh.
l'opportunité Geoffrey Blancano, elle est venue tout de suite après? Dans la foulée ou...
Ouais, bah nous on a arrêté, si tu veux, voilà, après Roland avec Enzo. Et bon, Geoffrey, moi je le connais depuis très très longtemps, hein. Il habite à côté de chez moi. Voilà, ses parents habitent à un vol d'oiseau à 10 minutes. Je le connais depuis tout petit. J'avais eu la chance de faire une semaine avec lui sur les championnats de France quand il était en 15-16 ans. Donc voilà, j'ai toujours contact avec son père, toujours contact avec Geoffrey. Et si tu veux, après Roland, qui n'avait pas été fantastique pour lui, on a discuté un peu avec son coach référent, Salam. Et donc, il cherchait un coach pour pouvoir aller avec lui, voyager avec lui un petit peu, qui avait une expérience du haut niveau. Et donc, on a fait un essai. Bon, moi, je suis très pris avec la fondation. Donc, je lui avais dit, écoute, moi, je veux bien. J'ai la chance de pouvoir choisir, si tu veux, actuellement. Et donc, j'avais dit, voilà, je veux bien t'aider. Je veux bien voyager une quinzaine de semaines avec toi dans l'année. Et le projet m'intéresse, c'est compliqué en ce moment, mais pourquoi pas relever ce challenge, quoi.
Ok.
Voilà, donc on a démarré tout de suite après Roland et lui laisser le temps de la réflexion par rapport à cet ajout dans sa structure, et puis c'est parti, quoi.
Ok, super. Et là, du coup, il est aujourd'hui 278 à l'ATP, hein, c'est ça?
Ouais, il est redescendu un peu, là il est 300, donc avec ce classement un peu particulier actuellement,
Ouais,
voilà.
c'est compliqué, ouais.
Là, il est 300. Écoute, il y a eu une coupure cet hiver, enfin, ouais, cet hiver, janvier, décembre, janvier. Est-ce qu'il n'était pas. Voilà. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué mentalement pour beaucoup de joueurs cette période. Et donc, le temps de faire le point un petit peu sur ce qu'il voulait vraiment et tout ça. Et puis, moi, j'avais promis et on m'avait demandé de m'occuper de Marie Benoît, la joueuse belge pour les qualifs de l'Australienne à Dubaï. Donc ça lui a permis le temps de souffler aussi. Et puis une fois que je suis rentré, voilà, on a redémarré le boulot et on avance.
Vous avancez, ouais.
Voilà.
Et le programme, c'est quoi du coup pour les prochaines semaines, les prochains mois?
Écoute, là, bon, déjà évidemment, l'objectif c'est Roland, essayer d'intégrer les qualifs grâce à son classement, qui se situe aux alentours de 220, 230, 240. Donc ça, c'est l'objectif principal. Sinon, tu sais qu'en plus, quand tu rentres qualif de Roland, généralement, la plupart du temps, tu rentres qualif de Wim. Parce qu'en plus, il n'a pas de points à défendre du tout. Voilà. Après, on ne se projette pas plus loin que là, on fait deux challengers au Portugal. Lui, il ira après sur un troisième challenger en Croatie. Moi, je vais partir travailler un peu avec les Belges. Et puis après, on se rejoindra où, je ne sais pas, quand, je ne sais pas, parce que bah, le programme, le circuit, c'est compliqué.
Ouais, ça évolue, on sait pas trop, il y a pas beaucoup de vision quoi, c'est compliqué, ouais.
Ouais, c'est un peu compliqué, les classements. Et en fait, il n'y a plus d'ordre établi, tu vois. À l'époque, à tel classement, tu savais que tu rentrais dans tel tournoi, tu savais que tel tournoi était à telle période, voilà. Mais là, on navigue à vue de semaine en semaine. Oui, on essaie d'avoir une ossature de programme, si tu veux. Mais bon, déjà, j'aimerais bien qu'on se projette pas trop loin pour être efficace sur les tournois qui viennent, quoi.
C'est ça, ouais, complètement. Et puis déjà, c'est entre guillemets presque une chance de pouvoir jouer des tournois dans ce contexte. Donc, ouais,
Ouais.
effectivement, jouer chaque match à fond, quoi.
Ouais, et puis, si tu veux, on n'a pas des objectifs grandiloquents, quoi, tu vois. On démarre de très loin. Ok, il est 300, il avait plutôt bien joué en début de saison avant que ça se coupe avec le Covid. Mais bon, la reprise a été cata. Et donc, si tu veux, il y a tellement de choses à remettre en place. C'est un joueur qui a, bah, évidemment, tu sais très bien, qui a gagné les juniors à Roland. Voilà, mais la transition junior-senior n'a pas été. Je ne sais pas si elle n'a pas été bien faite. En tout cas, elle n'a pas été bien intégrée.
Ouais.
Donc, si tu veux, maintenant, bah, il y a plein de choses à mettre en place, que ce soit son coach, bah, Salam et moi. On essaye vraiment de travailler dans ce sens-là. Et donc, ça prend du temps. Donc, on suit des petits objectifs, des petits pas. Mais j'espère que ça se mettra en place, en tout
On espère aussi, on espère aussi. Et du coup,
cas. Ouais.
tu peux nous parler un peu de toi, ta vision, justement du métier d'entraîneur. Entre guillemets, je dirais pas ta méthode, mais ton approche sur le jeu, sur le physique, sur le mental. Tu vois, chaque entraîneur a un petit peu ses spécificités.
Écoute, déjà, ouais, non, ça serait présomptueux et en plus, je déteste ça. Oui, ok, j'ai eu quelques résultats, mais bon, j'ai pas ma méthode. Et quand tu discutes, si tu veux, avec les coachs comme un Sam Sumik, qui a plus rien à prouver, voilà, quand je lui demande, mais c'est quoi ta méthode aussi, parce que voilà, j'aime bien aller discuter avec ça, ouais, j'ai pas de méthode, je m'adapte au joueur, à la joueuse. Voilà, j'ai quelques points où je dérogerai pas, si tu veux. Je pense que le métier, il évolue beaucoup. C'est de plus en plus compliqué parce que les joueurs sont de plus en plus compliqués. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la nouvelle génération, si c'est dû au stress, si c'est dû à la période. En tout cas, les joueurs sont de plus en plus exigeants et de plus en plus impatients, si tu veux. Donc ça c'est la première donnée. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois efficace tout de suite, il faut que tu ailles à l'essentiel, tu n'as pas vraiment le temps pour travailler parce que bah, comme on disait en ce moment, il n'y a pas beaucoup de tournois, donc il faut les jouer. Donc voilà. Après, ma méthode, en tout cas, je sais que mon travail évolue, le métier évolue, mais aussi mon travail évolue. Tu m'aurais dit il y a 7-8 ans, intéresse-toi, penche-toi sur la question du mental, sur la question de la diététique ou des choses comme ça. Je t'aurais dit, ouais, écoute, t'es gentil, mais il y a autre chose pour l'instant de plus important. Et donc, bah, tu t'aperçois que techniquement, c'est quand même de moins en moins important, physiquement, de plus en plus important, mentalement, de plus en plus important, et donc ça évolue. Après, voilà, tu prends un joueur qui est mentalement très fort, bah, écoute, tu vas aller t'occuper plus de sa technique, entre guillemets, tu vois. Donc, la méthode en elle-même, je ne sais pas. Par contre, oui, l'adaptation par rapport à qui tu es en face de toi, ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, je m'appuie sur les forces du joueur. Ou alors sur aller chercher ses forces, ou tu vois, lui faire découvrir ses forces. Tu vois, par exemple, un Geoffrey qui a un revers incroyable, bon, bah, il voulait prendre le jeu en compte avec son coup droit parce qu'on lui a dit ça, ou parce qu'il pense que. tu vois. Donc plus de faire découvrir un peu ses forces, travailler un peu plus sur les forces que sur les faiblesses, quoi.
Ouais, c'est ça, des forces qu'il n'a pas forcément eu toujours connaissance, ou entre guillemets, dans sa formation, on n'a pas assez insisté sur le potentiel de certains coups.
Exactement, exactement. Donc voilà. Et après, pour résumer, je l'ai déjà dit et tout le monde le dit, mais je pense que le coach, c'est voilà, un bon coach. Alors, je ne sais pas si je me mets dans la catégorie des bons coachs, je me mets dans la catégorie des coachs déjà sur le circuit, mais en tout cas, un coach, il doit toujours vouloir progresser et en allant chercher à gauche, à droite, et voilà, que ce soit dans le tennis ou que ce soit dans le foot, je ne sais pas. Et, voilà, je lis beaucoup les autres sports. Par exemple, le management que Onesta avait pu mettre en place sur le handball. Et donc, pour résumer, ouais, ma méthode, j'en ai pas parce qu'en fait, c'est l'agrégat d'un vol de toutes les méthodes à gauche et à droite, si tu veux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu t'adaptes
Voilà, tu vois.
du profil, quoi, du joueur.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, là, on revient du Chili. Il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de coachs. De temps en temps, voilà, je regarde à travers les sapins ou regarder un peu ce que fait le coach d'à côté et piquer. Tiens, ça me semble intéressant. Tiens, ça, non, ça me semble pas intéressant. Voilà, et puis on essaye de faire son truc, quoi.
Ouais, c'est ça, tu t'inspires des autres, il faut être super observateur, forcément à l'écoute.
Ouais, puis réfléchir, tu vois. Je sais que, par exemple, sur une problématique de préparation hors verre, par exemple, sur Geoffrey, on en a rigolé, mais avant-hier, tu vois, j'ai essayé d'inventer, je ne sais pas si on peut dire inventer, mais d'essayer de faire un truc avec un élastique accroché à son poignet. Bon, ça s'avère que c'était pas complètement nul, mais ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Mais au moins, tu vois, avoir toujours cette réflexion par rapport à ton joueur. Enfin, qui n'est pas ton joueur d'ailleurs, c'est le joueur que tu aides. Mais tu vois, je trouve toujours cette problématique d'essayer de trouver des trucs qui pourraient le faire évoluer, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui est passionnant aussi dans ce métier, en fait, hein.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est passionnant. De toute façon, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure, mais le truc le plus important, c'est de bosser, c'est de, voilà, ta passion fait que tu vas bosser. Tu vois, bah, avant-hier soir, jusqu'à minuit, j'ai regardé le match de Marie en Argentine sur mon téléphone. Voilà, et ok, parce que tu peux avoir entre guillemets une passion pour la joueuse, le joueur, mais surtout déjà, tu vois, essayer de les aider, et pour les aider, tu dois passer par là, tu vois.
C'est ça, complètement. Ouais. Et justement, tu évoquais un petit peu le sujet tout à l'heure. C'est quoi ton regard justement sur le fait que, par exemple, en France, on a des super juniors qui performent, qui gagnent des gros tournois, qui ont des bons classements, et justement, le passage avec le milieu pro est parfois compliqué. Comment t'analyses ça? On ne lance pas suffisamment tous les jeunes sur des tournois pro, on les...
Bah déjà, ça change un peu. On a quand même de plus en plus de juniors qui jouent bien dès qu'ils arrivent chez les seniors. On a quand même, voilà, que ce soit Arthur Cazaux qui a quand même fait quelques bonnes victoires chez les seniors. Bon, là, il est à l'arrêt, mais Harold Maillot qui a quand même gagné déjà deux fois à top 100. Bon, Hugo, il n'est pas sorti des juniors il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'est un problème français parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de joueurs étrangers qui ont bien joué chez les juniors et qui ont du mal à passer le cap. Je ne sais pas, je pense que. Est-ce que c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est un manque de formation des coachs? Est-ce que c'est aussi le problème, c'est que bah, les juniors français, les meilleurs juniors français s'entraînent à la Fédé et que bah, ils n'ont pas très faim? Je ne sais pas, tu sais, j'ai toujours du mal à donner un avis tranché par rapport à ça. Celui qui sait ce qui se passe réellement exactement, qui m'appelle, tu vois. Il y a tellement de composantes pour réussir, il y a tellement une part de chance aussi, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, ce que je conseille quand un junior vient, c'est déjà d'essayer de tout de suite aller accrocher le circuit senior le plus tôt possible dans sa formation, tu vois. Alors oui, les juniors, c'est important, oui, c'est sympa, Oui, c'est intéressant. Oui, il ne faut pas se griller physiquement en allant rencontrer tout de suite des seniors. Voilà, mais ouais, un petit peu plus d'ambition dans les programmations, tu vois, des fois.
Ouais, c'est ça. Se mesurer à des mecs
Et...
qui ont de la bouteille, de l'expérience, c'est pas les mecs de un peu plus.
Ouais, tu vois, là, on vient de 3 semaines en Amérique du Sud. J'ai envie de dire, tu es encore junior, mais vas-y, quoi, tu vois. Même si tu ne rentres pas dans le tournoi. Même si c'est cher, même si c'est loin, vas-y, va taper des balles avec des mecs qui ont une expérience, qui sont à la dure, entre guillemets, dans des conditions pas forcément toujours avec le meilleur rebond possible ou la meilleure balle possible. Mais voilà, un peu d'humilité. Et c'est bien de gagner chez les juniors, mais c'est mieux de gagner chez les seniors quand même, tu vois.
C'est ça, ouais, complètement, ouais.
Ouais, tu vois, tu vois, de temps en temps, on discute avec des joueurs. Bon, avec Geoffrey, ce n'est pas très un secret. Des fois, on s'accroche entre guillemets là-dessus. Tu vois, je lui dis, mais en fait, ce qui compte vraiment, ce n'est pas les juniors. Ou ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'aller gagner des CNGT. Ce qui compte vraiment, c'est les points ATP. Tu vois. Donc, au final, c'est ça qu'on va retenir.
C'est ça.
On ne sait même pas ce qu'a fait Nadal ou Djokovic chez les juniors. Déjà, ils n'ont pas gagné un grand chelem chez les juniors, déjà, pour commencer. Tu vois. Mais on ne sait pas. Finalement, ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas le grand public. Ce qu'on va retenir, c'est le nombre de grands chelems qu'il a gagné sur les 4 mai, sur les 4 grands chelems, quoi, tu vois. Donc voilà, moi, ce que je conseille souvent sur ces juniors, et c'est ce qui se fait, hein, tu vois, Harold, Mayo, tout ça joue quand même pas mal de 15 000, même quand il était chez les juniors, c'est de se dire, bah, tiens, où est-ce que j'aimerais bien être dans 1 an? Où est-ce que j'aimerais bien être dans 2 ans? Et donc travailler déjà à N plus 1, tu vois.
Ouais, je vois, ouais.
Ça peut être intéressant.
Mais par exemple, Geoffrey, il se voit où dans un an?
Geoffrey, entre ce que là où il se voit et là où il faut qu'il soit, il y a toujours un petit monde. Tu sais, les joueurs de tennis, des fois, ils se rêvent à des choses. Écoute, déjà, dans 1 an, s'il était dans le top 150, déjà, on serait content. Mais moi, je parle même pas du top 100, tu vois. Je les laisse parler quand ils parlent du top 100, tous les mecs. Voilà, déjà, fais ton truc, travaille, progresse, mets en place une programmation intéressante, sois rigoureux et on verra ce qui se passe, quoi.
Ouais, je vois. Et écoute, maintenant on va un petit peu évoquer ta fondation, ton super projet, Open Spirit. Est-ce que tu peux nous parler de justement de la jeunesse de ce projet?
Écoute, c'est une fondation qui a été créée par Daniel Meyers, qui est coach sur l'ATP, qu'on présente pas ou qu'on présente plus, entre guillemets, qui a créé ça il y a une petite dizaine d'années, il y a 8 ans exactement, je crois, pour mettre en lumière le fait que, bah, le circuit, c'était très difficile d'y accéder. Et donc, à un moment donné, il fallait avoir une soupape de secours. Et cette soupape de secours, bah, tu peux la tourner dans tous les sens, mais c'est d'avoir un niveau d'études intéressant. Donc lui a créé ça avec sa femme au départ, en se disant, bah voilà, on va aider les jeunes Belges à jouer au tennis, à croire en leurs rêves, en les soutenant dans leurs projets vers le tennis pro. Mais il est hors de question qu'on les laisse comme ça dans la nature, au niveau scolaire. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Évidemment, pour aller chercher des sponsors, des soutiens, sans une image de marque, sans de la publicité à l'international, c'était très compliqué. Mais en plus, ça correspondait à quelque chose, si tu veux, d'un peu réel, c'est-à-dire, bah, voilà, les parents, tu leur dis, il faut quand même avoir un niveau scolaire parce que ça va être difficile, et les parents te disent, non, non, mais moi, mon fils, ça va aller. Donc Daniel a travaillé avec des joueurs et des joueuses pro à l'international pour montrer évidemment que bah, leurs enfants étaient loin déjà du niveau international. Et donc bah, ça avait un réel sens de préparer les enfants aussi à la catastrophe tennistique, entre guillemets. Voilà, donc si tu veux, c'est un projet hybride, entre guillemets, où on aide des jeunes joueurs belges. Qui ont un projet fort, mais avec des études. Et à côté de ça, on a la section pro, où on aide des joueurs pro dans leur carrière pro, pour que ça serve d'exemple, que ça serve de locomotive et que ça serve aussi d'appât, entre guillemets, on ne va pas se cacher par rapport à nos sponsors. pour pouvoir rentrer plus d'argent, pour pouvoir aider les jeunes plus. Voilà. Donc ça, c'est la fondation Open Spirit. Et il y a une troisième section dans la fondation qui est la section handicap où on aide des jeunes handicapés, trisomiques, autistes, voilà, à aussi bah, vivre de leur passion qui est le tennis.
Super, super.
Voilà. Voilà, donc ça, c'est la fondation. Après, la jeunesse de comment moi je travaille avec eux, si tu veux, il y a 4 ans, ben, il y a 4 ans, presque jour pour jour, hein. C'était juste avant les attentats de Zaventem et de Bruxelles. Bah, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le circuit à gauche, à droite, et puis je tombe sur cette fondation. Enfin, déjà, je tombe sur Daniel en Australie, qui me, tu vois, ça m'interroge un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, il y a 4 ans, je lui envoie un message en disant, voilà, ça m'intéresse d'être ambassadeur, on va dire, de la fondation, et puis pourquoi pas venir voir comment vous travaillez en Belgique, quoi. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. J'étais invité par Daniel à suivre le camp d'entraînement, le stage de préparation à Roland-Garros. Je devais rester une journée, je suis resté 3 jours. Et puis de fil en aiguille, bah, je les ai rejoints sur des tournois. Voilà, j'ai fait les stages de préparation d'avant-saison à Abu Dhabi. Et puis il y a 2 ans, c'était une petite blague, mais sans l'aide vraiment. Je dis, mais voilà, Daniel cherchait un directeur sportif. Donc je dis, mais moi, je peux le faire. Donc, ça m'intéresse. Et toujours pareil, dans cette volonté, si tu veux, de développer un peu, d'ouvrir un peu mon truc, pas être forcément que sur le terrain. Et donc chiche. Donc, on est parti là-dessus il y a 2 ans. Et puis cet été. Voilà, Daniel commence à fatiguer un petit peu. C'est quand même une machine qui prend de plus en plus de place. Donc, m'a demandé si je voulais bien reprendre la présidence de la fondation, tout en évidemment restant à mes côtés pour travailler avec les sponsors. Donc, voilà un peu le parcours avec la fondation.
C'est super. Et il y a combien de membres dans la fondation?
Écoute, quand j'ai repris la direction sportive de la fondation, on aidait à peu près 25 jeunes. On avait en plus de ça, nos 7-8 représentatifs, donc nos joueurs pro. Et là, actuellement, le tout combiné, on est à 85.
Ah ouais, ça augmente bien.
Ouais, on a élargi la pyramide, on a élargi les âges sur lesquels on pouvait aider. On est vraiment très très présent. Bon, là, un tout petit peu moins avec les conditions. Et puis, moi qui travaille un peu là avec Geoffrey actuellement, parce que les Belges ne peuvent pas sortir, mais voilà, on a renforcé notre présence en Belgique, aller voir nos jeunes s'entraîner, mettre en place beaucoup de situations où on les entraîne, on les réunit, on les regroupe tout au long de l'année en Belgique. Et si tu veux, ça fait jaser, ça donne envie. Et donc, on a de plus en plus de demandes. Voilà, donc voilà, on est aux alentours de 130 demandes à l'année maintenant.
Ah oui, ah
Voilà.
oui. Et est-ce que
Ouais, on est là, ouais.
vous réfléchissez éventuellement à créer entre guillemets une structure physique, comme une sorte
Non.
d'académie ou c'est pas
Non.
d'actualité?
Non. On y tend, dans le sens où tu vois, on fait des journées d'entraînement en commun. Quand il y a eu le Covid, là, à la reprise, on a fait un camp d'entraînement de 2 semaines. On avait évidemment fait nos 2 semaines à Abu Dhabi tous les mois de décembre. Donc, si tu veux, on les regroupe de plus en plus. Mais par contre, avoir une présence annuelle, ça, c'est pas dans nos cordes. On n'a pas de structure, pour pouvoir accueillir ces gens-là. Et puis, c'est trop compliqué. Mais par contre, si tu veux, on diversifie un peu notre offre en essayant aussi sur des joueurs et des joueuses qui n'ont pas forcément de coach, de travel coach, on va dire. Voilà, de les aider, comme Marie, voilà, avec qui j'étais en Australie, enfin en Australie, non, à Dubaï, mais c'était pour les qualifs de l'Australie. Je fais pas mal de semaines avec Simon Baupin, tu vois, qui n'a pas de coach, qui est 900. Voilà, quelques semaines avec des juniors, j'ai été accompagné en tournoi il y a quelques temps, Lara Salden, qui était avec nous à l'époque. Donc voilà, on diversifie, mais jamais, non, non, on n'ira pas sur une structure académique, type académie. Ça, non.
Ok.
On n'y croit pas.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un beau modèle, en fait, comme tu dis, un modèle hybride. C'est un petit peu à la carte aussi en fonction des profils de joueurs, où tu les suis
Exactement.
quelques semaines, etc. C'est top.
Exactement. Mais tu vois, si on voulait ouvrir une académie, bien sûr qu'on pourrait le faire. Daniel a des moyens financiers qui pourraient nous permettre de le faire, acheter un club ou louer un club. Mais on préfère cette solution. Et au final, tu te rends compte que cette solution, ça ne nous impose pas au quotidien des problématiques ou tu vois, de chercher des coachs, de gérer du personnel, de recruter des joueurs, parce que là, c'est plus la même chose. Là, nous, on n'appelle pas les joueurs, si tu veux, c'est eux qui nous appellent. Mais là, à un moment donné, quand tu dois vivre de ça, c'est à toi d'aller faire le business, tu vois.
C'est
Donc
sûr.
ça, non, mais tu te rends compte qu'au final, là, j'ai eu 2, 3, 4 appels de joueurs pro, 400, 500. Ça commence à aiguiser un petit peu les appétits et les gens commencent à se demander ce que c'est vraiment, quoi.
Ouais, c'est ça, ça les interpelle, ça les intéresse d'en savoir plus de ce genre
Bah
de
voilà.
modèle quoi que vous avez mis en
Bah
place.
voilà. Tu vois, Geoffrey est rentré dans la structure. On a fait rentrer une joueuse qui a plus forcément d'ambition énorme au niveau du circuit, mais Jade Suvrine, on l'a fait rentrer dans la famille parce que pour nous, c'est une famille, tu vois. Au-delà d'avoir cette relation où on te donne de l'argent, où on te donne des avantages, il y a aussi le fait que c'est une famille, et les joueurs viennent et tout le monde s'entend bien, les joueurs pros, les jeunes, les tout petits. Il y a vraiment, vraiment une osmose qui s'est créée et ça, j'adore.
Ah, c'est super. Et puis en plus, j'imagine, ouais, les joueurs pros, ceux qui ont plus d'expérience, partagent ça avec les jeunes. Et forcément, ça
Exact.
c'est génial.
Exactement, tu vois, que ce soit à Abu Dhabi ou cet été, là, sur le camp des 2 semaines, c'était fantastique. Et puis, le barbecue, tu vois, où les joueurs, les jeunes, sont capables de dire, cet été, on a fait, c'était le mois de septembre, mais bon, cet été aussi, mais voilà, on a fait un barbecue, il y avait Steve Darcy, il y avait Isaline Bonaventure, il y avait Clément Gaines, il y avait Arthur de Greef, il y avait Marie Benoît, il y avait Simon Baupin. Bon, là, maintenant, il y a Jérémy Chardy qui est ambassadeur. Pour nous, il y a Geoffrey, il y a Jade, et donc tous ces jeunes, d'être au milieu de tout ça, c'est fantastique, je trouve.
C'est un gain d'expérience énorme, énorme, énorme.
Ouais, c'est génial, tu vois, Abu Dhabi, c'est quelque chose d'incroyable, qui était à l'époque restreint. Moi, j'ai voulu l'ouvrir. L'année dernière, on s'est retrouvé à 35 joueurs à Abu Dhabi. Donc, 35 joueurs, 10 coachs tennis, 3 préparateurs physiques, 3 kinés, 2 intendants. Enfin, tu vois, c'est pour les jeunes, mais c'est un rêve de vivre ça, tu vois.
Complètement. Ah ouais, non,
Ouais.
c'est super de
Ouais.
l'entendre. Ah ouais, non.
Ouais. On est super content de l'évolution, on est super content de ce qui se passe. Ça a été dur, hein. Je te cache pas que, tu vois, pour faire comprendre aux joueurs pro qu'il faut aller taper avec un petit gamin de 8 ans. Tu vois, au départ, hein, c'est pas toujours facile, mais et puis on a eu pas mal de, tu vois, qui on est, qu'est-ce qu'ils font, ils nous concurrencent les académies, concurrencent la Fédé, alors que pas du tout, tu vois, on est là à aider surtout ces jeunes qui sont en académie ou en Fédé, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir continuer, quoi.
Ouais, et par exemple, le rôle d'un Steve Darcy ou d'un Jérémy Chardy, c'est quoi? C'est d'être présent de temps en temps sur des rassemblements
Ouais. Bon, Steve est plus chez nous, malheureusement. Bon, il a arrêté sa carrière. Il est entraîneur à la Fédé belge, Fédé francophone. Et donc, bon, c'était compliqué pour lui. Mais un Jérémy, en fonction de son programme cette année, on essaiera évidemment de le faire venir. Ouais, son rôle, c'est de venir, de conseiller, qu'il soit coach ou qu'il soit joueur aussi avec nos joueurs pro aussi, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, leur rôle, c'est un rôle d'ambassadeur à travers le monde. Nous, évidemment, de pouvoir aller voir les sponsors en disant, voilà, il y a Jérémy Chardy qui me représente avec les résultats qu'il a actuellement, par exemple. Est-ce que, voilà, ça crédibilise le projet aussi, tu vois?
Ah, c'est
Donc,
sûr.
parce que je cache pas que les temps sont durs. Donc, financièrement, les sponsors, faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on arrive à pérenniser ce projet parce que j'y crois dur comme fer, quoi. Tu vois, ce projet-là, je te cache pas que j'ai eu comme tout le monde d'ailleurs, mais j'ai eu quelques propositions où financièrement, bah, je me retrouverais bien plus. Et ouais, non, au final, c'est pas possible parce qu'il y a cette fondation et c'est un projet incroyable.
Ah, mais c'est clair, le projet est magnifique. Et justement, les sponsors, bon, en ce moment avec le Covid, c'est très compliqué. Mais après, de plus en plus de sponsors vont être intéressés justement pour s'engager dans l'aventure, puisque ça va grossir, etc. Il y aura plus de jeunes, plus de membres.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, là, on a le soutien, tu vois, la ministre des Sports de la région Wallonne est venue à un de nos rassemblements. Elle a trouvé ça fantastique, tu vois, de faire cohabiter des jeunes, de faire cohabiter un petit trisomique qui fait un double avec Steve Darcy contre Isaline et une petite autiste. Enfin, tu vois, voilà, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Puis derrière, tu vois qu'il y a, je ne sais pas, ce jour-là, bon, c'était pas très Covid, mais bon, ça allait un peu mieux au mois de septembre, mais il devait y avoir 150 personnes au barbecue, et tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a quelque chose, tu vois. Donc, ouais, les sponsors, après, les sponsors, quand tu arrives à les accrocher, généralement, ça suit, mais déjà, le problème, c'est que là, pour l'instant, les accrocher, c'est compliqué. C'est
Ouais, c'est
compliqué.
sûr, c'est sûr. Bah, en plus avec le Covid, quoi. C'est sûr qu'ils font.
Ouais, c'est surtout ce Covid là qui a foutu un truc, tu vois, vraiment chiant. Est-ce que mais franchement, on a deux trois pistes intéressantes et on intéresse de plus en plus, comme tu disais, c'est bah ouais, c'est super. Donc on les intéresse de plus en plus et même en France, tu vois, j'ai plein de demandes de joueurs français, de voilà, ça fait parler là.
Ouais, c'est ça, hein, mais il y a la possibilité de développer ce projet. Hein, c'est un magnifique projet. Ouais. Super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi, Xavier.
De rien, avec plaisir, merci à toi
Intéressant.
surtout.
C'est super sympa de ta part. Merci beaucoup.